Avant de commencer, je voulais vous adresser les salutations de nos délégués au Synode, puisque j'ai reçu un petit message avant le culte qui nous souhaitait un bon culte et je leur ai adressé l'appareil de notre part. Et apparemment, tout se passe bien là-bas. Donc, voilà. Je vous propose, avant de nous plonger dans la parole de Dieu, de pouvoir prendre un moment pour prier. Seigneur, nous te remercions pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir nous réunir encore ce matin, tous ensemble, autour de ta parole, autour de toi. Ailleurs dans le monde, ça n'est pas le cas, et nous pensons à nos frères et sœurs qui, eux, sont obligés de se cacher pour se réunir. Nous te prions pour te remettre nos jeunes et nos enfants qui sont descendus pour aussi entendre parler de toi. Et nous te prions pour que les graines qui soient semées, qu'elles soient dans les maisons ou que ce soit ici, eh bien, puissent porter des fruits et que eux aussi, ils puissent avoir la grâce de te connaître pleinement, entièrement. Mais ce matin, nous voulons aussi nous remettre nous-mêmes devant toi, dans l'état dans lequel nous nous trouvons ce matin, avec nos joies, avec nos doutes, avec nos combats, avec nos peurs peut-être. Et nous voulons tout te remettre pour aussi nous tourner vers toi et découvrir ou redécouvrir ce que tu désires encore nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est un dimanche où nous sommes entre deux, puisque vous aurez noté que l'Ascension vient de passer et que la Pentecôte, c'est pour bientôt. Pour le coup, eh bien, j'ai pensé qu'il était intéressant de pouvoir se pencher sur un texte assez classique dans cette circonstance. C'est le texte de l'Ascension de Jésus que nous trouvons en acte 1 et que nous allons lire, si Mathias, tu veux bien nous afficher le texte. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. L'ascension de Jésus pose, en tout cas à moi, m'a posé de nombreuses questions. N'est-elle pas, par exemple, la preuve manifeste que Jésus n'était qu'un extraterrestre qui est remonté dans le ciel avec son vaisseau spatial? Plus sérieusement, bien que ces théories évoquent dans certains milieux, pourquoi la résurrection corporelle de Jésus n'a-t-elle pas été le mot de la fin? Pourquoi était-il nécessaire que son corps soit exalté le jour de l'ascension? Et pourquoi fallait-il attendre 40 jours? Ensuite, qu'est-il advenu du corps de Jésus, une fois élevé? Est-il devenu esprit? Ou est-il toujours présent quelque part au ciel ou bien dans l'espace? N'aurait-il pas été préférable que Jésus reste sur terre dans son corps ressuscité et soit un témoignage vivant de son œuvre de salut sur la croix? Toutes ces questions et bien d'autres ont trouvé peu d'écho, souvent chez les chrétiens. Les prédications et les enseignements liés à l'œuvre de Christ sur la croix, par exemple, sont nombreux, mais ceux sur l'ascension du Christ le sont moins. Pourtant, l'Église catholique, dans les premiers siècles notamment, en avait fait une partie de son credo, lui accordant du coup bien de l'importance. En fait, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et si un texte se trouve dans la révélation de Dieu, eh bien, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu, eh bien, veut nous parler à travers lui, et on ne peut donc pas le négliger. Alors, je vous propose d'étudier l'ascension de Jésus et ce passage d'Acte 1 d'après le schéma suivant. Le disciple est appelé à sortir du monde en étant assis pour mieux y demeurer en marchant et le renouveler en tenant ferme. Nous voyons que les disciples posent à Jésus cette question : est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ? 40 jours viennent de s'écouler entre la résurrection du Christ et ce jour-ci. 40 jours où les disciples ont refait le périple qu'ils avaient déjà fait avec Jésus avant sa mort et sa résurrection, allant de Jérusalem en Galilée, sur le lac de Tibériade, pour retourner à Béthanie, au pied du mont des Oliviers, là où Jésus avait sa base d'action et de repos, là où se trouvaient tous ceux qu'il aimait d'une façon toute particulière. Durant ces 40 jours, les disciples ont pu bénéficier d'un enseignement de Jésus renouvelé, qui les ait préparés à pouvoir devenir les futurs grands acteurs du bouleversement social, religieux, culturel des siècles à venir. Oui, mais voilà, le Maître va bientôt partir, et les disciples ont encore une vision du monde et des projets tournés vers le royaume terrestre. Même si Jésus a changé leur vie, ils demeurent juifs, et pour eux, eh bien, dans leur vision du monde et dans leur projet futur, il est inconcevable de supposer qu'Israël ne pourra pas être restauré comme il se doit de l'être. Pour les disciples, ce qui compte, c'est un projet de réforme de la société dans laquelle ils sont, pour dire d'une façon un peu orgueilleuse à la face du monde entier, « Regardez, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les meilleurs. » Les disciples n'ont pas encore changé de monde. Ils leur font encore réaliser qu'ils ne sont plus de ce monde, mais d'un autre monde. Lorsque nous lisons la prière sacerdotale de Jésus en Jean 17, nous voyons que, selon Jésus, eh bien, le disciple est appelé à ne plus être du monde. Nous en concluons donc que le disciple est appelé à sortir du monde. Mais avant de sortir du monde, eh bien, il faut réaliser, eh bien, qu'il faut en sortir. Les disciples ont besoin de sortir du monde, de son système de pensée, de projet, de vision terrestre, pour entrer dans un autre monde, celui de Dieu. Non pas le royaume d'Israël, mais celui de Dieu. Alors Jésus oriente leur regard vers ce nouveau monde. Il les aide à ne plus regarder à ce monde ici-bas, mais à lever les yeux. Et Jésus, en s'élevant, leur montre la voie du ciel. Il est dit dans le psaume 68, au verset 18, en parlant du Christ, « Quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers Il a fait des dons aux hommes. Nous étions prisonniers, prisonniers du péché, de la mort, de la loi, de Satan, de notre passé, de notre moi. Mais Christ, à la croix, nous a délivrés. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Et à l'image du brigand sur la croix, à qui il dit que le jour même, eh bien, il sera avec lui dans le paradis, eh bien, Jésus ne nous laisse pas uniquement là. Il nous emmène avec lui d'une certaine façon. À l'ascension, Jésus reçoit du Père le couronnement de roi des rois. Il reçoit tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Et en Éphésiens 1, nous lisons que Dieu a ramené le Christ d'entre les morts et il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. Mais chose merveilleuse, Jésus ne s'est pas assis tout seul dans les lieux célestes. Et plus loin, en Éphésiens 2, de nouveau, nous lisons que Dieu nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Jésus avait ainsi annoncé à ses disciples lors du repas de la Pâque avant sa mort qu'il allait retourner auprès du Père, mais qu'il allait aussi leur préparer une place avant de venir les reprendre. Ainsi, une chose est certaine, nous sommes assis dans les lieux célestes et pas n'importe où avec Jésus-Christ. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes une nouvelle création. Nous sommes des créatures célestes, pas des créatures de l'air, car c'est là que Satan en est le prince, pas de la terre non plus, parce que c'est là que se trouve l'homme irrégénéré, mais du ciel, là où se trouve notre Créateur, notre Père, notre Dieu, notre frère et toute notre famille. Le sang coule dans notre corps terrestre actuellement, mais bientôt il s'arrêtera de le faire. Mais la vie de l'Esprit coule en nous pour l'éternité et témoigne de cette nouvelle identité que nous avons désormais, de cette position qui est la nôtre maintenant, assis dans les lieux célestes avec le Christ. Notre place n'est plus ici-bas, mais dans le ciel, à côté de Jésus. Notre maison n'est plus ici-bas, bien que peut-être nous ayons un appartement ou une villa, pour l'instant ici. Mais elle est là-haut, avec le Christ. Notre futur n'est pas sur cette terre, mais dans le ciel, avec ceux que nous aimons. Rentrons dans cette réalité. Préparons-nous-y, car Christ va venir nous chercher pour nous emmener avec lui là-haut, bientôt, d'une façon ou d'une autre. Nous sommes sur le départ. Nous sommes en transit dans la gare Terre. Bientôt, nous le verrons face à face, tel qu'il est. Bientôt, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni épreuves, ni blessures, ni deuil, mais joie, paix, sécurité, allégresse. Nous allons festoyer avec Jésus lors des noces de l'agneau. Nous allons faire la plus belle des agapes. Nous chanterons aussi des tas de louanges. Nous allons parler avec lui. Nous allons pouvoir aussi parler avec Paul, avec Pierre et les autres apôtres. Et puis encore Saint Augustin, Blaise Pascal, Hudson Taylor, George Muller et tous ces grands hommes de foi. Et puis nous allons retrouver tous ceux que nous aimons, nos familles, nos amis. Nous allons habiter ensuite la nouvelle Jérusalem sous de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre. Nous habiterons avec le Seigneur en personne. Nous irons au bord du fleuve, admirer le paysage et l'arbre de vie porter 12 fois du fruit. Nous irons aux sources de la vie sous la conduite de Jésus et nous recevrons comme récompense la couronne de vie. Les disciples ne peuvent plus détacher leurs yeux du ciel. C'est trop beau. Il y a eu cette nuée qui a couvert Jésus. Ils ont vu la gloire de Dieu, parce que la nuée représente la gloire de Dieu dans la Bible. Et devant un tel spectacle, il reste figé. Et de même, quand nous nous prenons à nous représenter le ciel et le futur éternel comme nous venons de le faire, nous avons l'impression de rêver. Et comme ce rêve est trop beau et qu'on sait qu'il va bientôt devenir réel, eh bien, on n'a plus envie de faire face à la réalité terrestre et quotidienne. Et pour Jésus qui s'éloigne, eh bien, le combat spirituel aura été jusqu'au bout. C'est ce que je me suis dit. 40 jours pendant lesquels il a enseigné ses disciples et il a vécu des tranches de vie avec eux. Mais 40 jours aussi où il a peut-être été encore tenté au moment de finir son ministère sur terre. Comme avant de commencer son ministère, justement, où il y a eu ses 40 jours dans le désert. Tenté de régner comme roi, comme vainqueur. Tenté de rester là avec ses disciples, bien fragiles et manquant de sagesse. Tenté de les aider. Tenté de les aider à convertir un maximum de monde avec un coup médiatique sans précédent, en se montrant par exemple à tout le peuple en même temps. Tenté de se faire roi, lui-même, au lieu de laisser son Père céleste loindre comme roi des rois, comme par exemple Saül n'a pas attendu Samuel et s'est proclamé roi lui-même. Tenter de régner tout de suite, pour toujours. Imposer l'évidence de sa divinité à tous, pour que tous se convertissent. Mais Jésus n'a pas voulu cela. Le monde, la terre est à l'homme. La création devait être régie par Adam, au temps du jardin d'Éden, dans la soumission, la confiance et la dépendance à Dieu. Ainsi, l'homme doit continuer dans cette voie. C'est à lui de construire son futur et de choisir s'il veut le faire dans la dépendance, la confiance et la soumission à Dieu ou non. Dieu aime l'homme et il le laisse libre. Libre de se réconcilier avec lui ou pas. Libre de le suivre, de faire ses choix, de prendre ses décisions. Il n'agira pas à sa place. Il le laisse prendre ses responsabilités. Il le laisse se tromper. Il le laisse grandir à son rythme. Les disciples étaient fragiles, incrédules, lâches, immatures. 40 jours d'enseignement et de vie avec les ressuscités les ont changés. Mais peut-on leur faire confiance ? Le maître parti, ne vont-ils pas retomber dans les mêmes travers qu'avant ? Or, Jésus croit en l'homme. Il croit en nous. Il nous fait confiance. Il nous laisse devenir adultes. Il ne regarde pas à nos erreurs du passé, à nos ratés. Il nous permet de grandir, d'évoluer, de recommencer pour aller plus loin. Tels sont appelés aussi des parents biologiques et spirituels à être avec leurs enfants. Ils sont appelés à les laisser libres. Ils sont appelés à ne pas plaquer sur eux des schémas, des préjugés. Ils sont appelés à ne pas planifier leur vie. Ils ne sont pas appelés à les surprotéger pour que jamais rien ne leur arrive. Ils sont appelés à ne pas les faire prisonniers en fusionnant avec eux. Ils sont appelés à croire dans leurs enfants. Ils sont appelés à pardonner. Ils sont appelés à aimer. Ils sont appelés à accompagner leurs enfants dans leur projet de vie. Ils sont appelés à les aider à découvrir leurs dons et à les faire mûrir. Il est donc fondamental de démarrer notre vie chrétienne en tournant nos yeux vers le ciel comme les disciples. Ainsi, nous pourrons sortir pleinement du monde pour ne plus en être, pour ne plus lui appartenir. Oui, mais nous ne pouvons pas finir toute notre vie les yeux rivés au ciel, comme les disciples qui ne pouvaient plus détacher leurs yeux de ce qu'ils venaient de voir et qui ne quittaient pas le ciel des yeux. Il arrive un moment où il faut regarder à nouveau autour de nous, revenir à ce monde auquel nous n'appartenons plus, mais où nous sommes toujours. C'est souvent un moment un peu douloureux. Et il faut souvent une intervention de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur pour que nous détachions nos yeux du ciel et pour que nous puissions passer symboliquement aussi à l'âge adulte dans notre vie de foi. Pour les uns, ce sera les études, le travail, la vie de couple, le mariage, etc. Pour les disciples, ici, eh bien, ce sont les anges qui cassent leurs beaux rêves. Jésus a tenu bon jusqu'au bout et il a choisi de laisser les disciples seuls. Quant aux disciples, donc, ils regardent le ciel et je me suis demandé comment j'aurais réagi, comment nous aurions réagi à leur place, à ce moment-là où, ça y est, Jésus n'est plus là. Il a disparu de leurs yeux. À vrai dire, j'aurais été très frustré à la place des disciples. Voilà que Jésus part de ce monde pour aller au ciel, endroit merveilleux dont on vient de se rappeler, dont nous rêvons au plus haut point, que nous aspirons à connaître de toutes nos forces. Et voilà qu'il nous laisse là, sur cette terre, où le péché sévit. La haine, l'orgueil, la méchanceté, l'envie, la jalousie, l'amertume, la violence, le racisme, la folie sont les maîtres dans ce monde. Dans ce monde qui est perdu, à la dérive, sans plus ni foi, ni loi. Quelle frustration pour les disciples! Pourquoi Jésus ne les a-t-il pas pris avec eux, tout de suite? Pourquoi faut-il rester ici, dans ce monde où je ne m'y retrouve pas? Dans ce monde où je ne parviens pas à m'intégrer et où je n'ai peut-être même pas envie de m'intégrer? Dans ce monde où je ne trouve pas ma place? Dans ce monde où je suis peut-être proie au mépris, au rejet et peut-être même à la persécution, si j'ose dire que je suis chrétien, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ? Je préfère encore fuir le monde. Je préfère encore m'évader par le rêve. Je préfère encore rester mystique, rester connecté 24 heures sur 24 avec Dieu, en priant, en chantant. Je préfère rester dans l'exaltation et la contemplation éperdue de ce Dieu qui est au ciel et que je rêve de rejoindre. À vrai dire, je ne suis pas adulte. Je n'arrive pas à m'assumer. Je préfère me déresponsabiliser. La terre s'en va en cacahuète, mais moi je m'en fiche. Non, moi, c'est le ciel qui m'intéresse, pas la terre et ses habitants bizarres. Or voilà, nous sommes appelés par Dieu à demeurer dans sa création. Il l'avait remise au gouvernement de l'homme en Éden, comme je l'ai dit, et il n'a jamais cessé de vouloir que cela continue. Quand je suis né de nouveau, Dieu a tout fait pour moi. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Quand j'avais besoin de quelque chose, Dieu répondait presque instantanément à mes prières. Il m'a donné une vie nouvelle, une identité nouvelle. Il m'a remis sur les rails. Patiemment, il m'a éduqué. Il m'a redonné les bases pour que je reparte du bon pied. Maintenant, Dieu continue de demeurer avec moi, mais il m'appelle aussi à travailler désormais avec lui. Grâce incroyable. Désormais, j'ai tout ce qu'il faut, en tout cas pour lui, pour que je puisse m'assumer moi-même. Aussi suis-je surpris et désorienté quand j'ai des problèmes, des épreuves. Dieu semble silencieux et ne pas vouloir m'aider et répondre à mes prières. Au début de la conversion, Dieu a tout assumé car j'avais besoin d'être reconstruit de A à Z. Maintenant, il faut que j'apprenne à m'assumer moi-même, que j'ose affronter ce monde qui m'est étranger, moi qui ne suis désormais plus qu'un étranger et un voyageur dans ce monde, et que j'apprenne à faire mes propres choix, que je prenne mes propres décisions, sans me conformer au siècle présent et en apprenant à le faire avec une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Il faut noter que les disciples redescendent à Jérusalem justement où ils doivent attendre le Saint-Esprit. Les disciples auraient donc pu se dire « Maintenant que nous sommes devenus étrangers sur cette terre, eh bien, allons dans un coin reculé, formons notre propre communauté et restons entre nous, ne nous mélangeons pas à ces gens qui sont fous, pervers, remplis de haine et de convoitise, et attendons que le Seigneur revienne. » Le grand danger, eh bien, c'est de chercher à s'isoler du reste du monde, à vouloir former la communauté parfaite. C'est une folie que de vouloir faire cela, parce que de toute façon, eh bien, le monde et le péché finissent toujours par nous rejoindre, même sur une île déserte. Au contraire, les disciples sont allés à Jérusalem, là où tous les genres d'hommes se côtoyaient, les riches, les pauvres, les religieux, les sans religion, les paumés, les hauts notables. Témoigner de Jésus, eh bien, c'est le faire en choisissant d'être en plein centre du monde. C'est accepter d'être en plein milieu du territoire ennemi, en acceptant de prendre tous les risques. Heureusement, les disciples n'étaient pas appelés à rester seuls dans ce monde. Tout d'abord, Jésus demeure avec eux, avec nous, jusqu'à la fin du monde, comme il l'a dit dans ses derniers mots dans l'évangile de Matthieu. Et puis de plus, Jésus est maintenant notre grand souverain sacrificateur, l'auteur de notre salut éternel. Je lis en Hébreux 4, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en nous, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Le ministère de Jésus auprès de son Père dans les lieux célestes nous permet ainsi d'être sécurisés et de savoir que Jésus, même s'il n'est pas là, physiquement, avec nous, eh bien, il continue de s'occuper de nous. Qu'il connaît tout de nous, de notre vie, de nos bonheurs, mais aussi de nos difficultés, de nos épreuves, dans ce monde où il nous a laissés. Et plus que cela, Jésus ne se contente pas de demeurer avec nous de cette façon-là. Et pour illustrer cette idée, on va lire un texte qui se trouve en 2 Rois, qui parle du départ d'Élie, qui est aussi un départ un peu singulier. Élie, ce grand prophète de l'Ancien Testament, qui a fait plein de miracles, combattu des tas d'idoles et a remporté de grandes victoires, va partir et son disciple Élisée l'a appris par l'Esprit et il le suit partout parce qu'il ne veut pas lâcher son maître avant qu'il soit parti. Alors, ils vont de lieu en lieu et puis ils arrivent devant le Jourdain et quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu désires pour que, et ce que je fasse pour toi avant que le Seigneur m'enlève auprès de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. » »« Je demande une chose difficile à obtenir, » reprit Élie. « Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. » Pendant qu'ils marchaient et s'entretenaient, un char étincelant, tiré par des chevaux, éclatant de lumière, les sépara. Et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsque Élisée vit cela, il se mit à crier, « mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Quand il ne vit plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Ensuite, il ramassa le vêtement qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Il prit ce manteau et il frappa l'eau du fleuve en s'écriant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ? Oui, où est-il ?» Il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre et il put passer. Les membres du groupe de prophètes de Jéricho virent à distance ce qu'avait fait Élisée et ils se dirent « L'esprit prophétique qui animait Élie anime maintenant Élisée. » Ils vinrent à la rencontre d'Élisée, s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui. Alors un point commun entre cette histoire et celle qui nous intéresse, c'est le suivant. C'est que Dieu, par Élie, a donné une double portion de son esprit prophétique en héritage à Élisée, en permettant que son manteau tombe à terre. De même, Jésus nous a laissé en héritage son esprit. Il a également laissé tomber son manteau à terre en s'élevant dans le ciel. L'apôtre Pierre dit en acte 2, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, nous sommes au moment de la Pentecôte. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Nous ne sommes donc pas seuls, car le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en nous. Nous pouvons demeurer dans ce monde en marchant et en marchant par l'Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité, nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Il est là pour nous donner les paroles à propos si nous devons défendre notre foi. Il est là pour nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné. Alors ne soyons pas troublés. Dieu lui-même est avec nous. Il habite en nous. Ainsi, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais l'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse pour demeurer dans ce monde. Nous n'avons pas à avoir peur ou à nous sentir rejetés, mal aimés dans ce monde et incapables de l'affronter. Dans le royaume de Dieu, l'homme est appelé à accomplir une tâche qui exige, c'est vrai, des capacités surnaturelles que seul l'Esprit de Dieu peut lui communiquer lorsqu'il oint l'homme de sa présence en lui. Nous sommes appelés ainsi à être comme Élisée, à saisir le manteau de l'Esprit et à le recevoir et à l'accepter. Et Ralph Challis écrit « Lorsque Jésus est monté au ciel, son manteau, son revêtement de puissance, son onction tomba sur la tête et sur les épaules de ses disciples qui portèrent ensuite ce manteau tout le reste de leur vie. Jésus avait promis de verser son esprit sur ses disciples et ceux-ci, en le recevant, acceptèrent d'être ainsi totalement identifiés à leur maître. Ils portèrent avec fierté son nom, sa vie de sacrifice, d'abnégation, d'obéissance, de souffrance et de joie et de puissance aussi. » Acceptons-nous, nous aussi, aujourd'hui, de nous identifier à Christ et de porter son manteau à l'image d'Élisée, qui porta celui d'Élie et qui fit des miracles encore plus grands que son maître, comme Jésus a dit que nous aussi, nous en ferions. Autrement dit, acceptons-nous que le Saint-Esprit puisse avoir la place qui lui revient dans notre vie, c'est-à-dire toute la place. Acceptons-nous que Dieu est aujourd'hui dans notre vie la première place. Telle est la question que la Pentecôte nous rappelle également bientôt. Ainsi, nous demeurons dans ce monde en marchant. Et c'est après être assis dans les lieux célestes que nous commençons à marcher. C'est parce que notre salut est garanti pour l'éternité que nous sommes saints et que nous marchons désormais pour travailler à ce salut et nous sanctifier. Nous n'avons pas besoin de marcher, d'agir, de faire de bonnes œuvres pour devenir saints et être sauvés, parce que nous le sommes déjà. Et fort de cette position que nous avons en Christ, vivons alors en nous comportant d'après cette position, d'après cette identité que nous avons déjà. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus à ses disciples en Jean 15. Si nous décrochons de cette position, si nous cessons de demeurer en Christ, si nous cessons de nous voir comme assis dans les lieux célestes avec Christ, eh bien nous aurons beau faire tout ce que nous voulons, nous ne porterons pas de fruits. Car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Ainsi, après être sortis du monde en étant assis, nous y restons en marchant pour mieux le renouveler en tenant ferme. Jésus ne nous a pas laissés dans ce monde sans que cela n'ait un sens. D'abord, nous avons lu que Jésus a emmené avec lui des captifs et qu'il a fait des dons aux hommes. Ces dons, eh bien, c'est nous. Ce sont, dans certains cas, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, mais aussi des hommes et des femmes comme vous, comme moi, avec les capacités dont il nous a dotés. Et ces dons, eh bien, il les a faits pour tous les hommes, dans une certaine mesure, comme les évangélistes et les apôtres, par exemple. Mais chacun de nous est un don pour les hommes. Et puis, nous sommes aussi un don pour le corps du Christ. Nous sommes là déjà pour nous former, pour nous encourager, pour nous enseigner les uns aux autres. Et Dieu se sert de chacun de nous pour faire grandir sa vigne, pour fortifier son corps. Étant des dons aux hommes, nous avons reçu une mission particulière à accomplir de la part de Dieu. Et Jésus a laissé cet ordre à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples en baptisant ses disciples et en leur enseignant ce qu'il leur a prescrit. Il leur a ainsi demandé de rentrer dans une dimension en quelque sorte de parents spirituels. Il leur a demandé aussi d'être ses témoins, d'être ceux qui vont raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vécu avec Jésus et de montrer par leur vie l'impact que Jésus laissa en eux. Car autant nous pouvons rêver du ciel et imaginer tout ce qui va s'y passer, toute la beauté des choses qu'on va y voir et vivre, tout l'amour qui va être transmis dans nos relations avec tous ceux qui seront à nos côtés, autant il ne faut pas oublier qu'à côté du ciel, eh bien, il se trouve un autre endroit qui ne fait pas rêver, mais qui fait plutôt faire des cauchemars. Cet endroit, c'est l'enfer, lieu de destinée finale des méchants, désigné par le mot « Géhenne » dans l'Ancien Testament et qui est dérivé lui-même du nom hébreu de la vallée de Himmon, près de Jérusalem. C'était un lieu où, au temps de l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices d'enfants et qui devint un lieu d'incinération des ordures. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, l'enfer est dépeint comme un lieu où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais. Un lieu de ténèbres où il y a des pleurs et des grincements de dents et un lac de feu. C'est dans ce lac de feu, qui est appelée la seconde mort, que sont détruits le corps et l'âme. C'est le lieu où seront jetés Satan et ses anges, mais aussi tous ceux dont le nom ne seront pas trouvés dans le livre de vie. Ces images indiquent la terreur et le caractère définitif de ce qui est décrit ailleurs comme l'exclusion de la présence du Christ. Et le Nouveau Testament enseigne clairement qu'elle symbolise un châtiment pour lequel il n'existe aucune amnistie. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges et ne devient la destinée que de ceux qui auront refusé leur véritable destinée, celle que Dieu leur offre en Christ. L'enseignement du Nouveau Testament ne peut s'accommoder de l'universalisme qui suggère qu'à la fin, tous les hommes seront sauvés. Dieu veut le salut de tous, mais tous n'acceptent pas son offre gracieuse. Voilà pourquoi nous, créatures célestes, nous sommes des ambassadeurs de ce monde céleste et nous sommes appelés à supplier les hommes à se réconcilier avec Dieu. Et ce matin, c'est ce que je désire faire encore ce matin si certains d'entre vous n'ont pas encore fait ce pas. Se réconcilier avec Dieu si nous ne voulons pas que leur vie devienne un cauchemar et ce cauchemar une réalité éternelle. Les apôtres et les disciples des premiers temps ont bouleversé leur société. Finalement, ils y sont arrivés. Mais en fait, finalement, le renouvellement qu'ils ont apporté n'aura pas été tant social, religieux, culturel, politique qu'intérieur et spirituel. Car quand l'intérieur est transformé, alors cette transformation se propage partout, même dans le tissu social, comme le montrera l'histoire de l'Église et de l'Occident. Nous terminerons en disant que les disciples sont appelés comme nous à renouveler ainsi le monde, en tenant ferme, en restant fidèle, intègre jusqu'au bout, même dans la persécution. Mais tout ça, c'est la suite des Actes des Apôtres que je vous encourage à lire ou à relire.